Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Thomas Hugues.
Et donc bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Le dernier Conseil des ministres avant les vacances a lieu ce matin. Après votre interview sur RTL, ils vous attendent peut-être. Le projet de loi sur la bioéthique qui sera présenté, il contient notamment, il y a d'autres textes, il y a d'autres éléments dans cette loi. Il contient notamment l'extension de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Mi-juin, quand le Premier ministre a annoncé que ce projet serait présenté en Conseil, il avait dit « Je suis persuadé que nous pouvons atteindre une forme de débat serein, plus serein que lors du mariage pour tous, lors du quinquennat précédent. » Est-ce que vous pensez que la mentalité, que l'opinion publique française a vraiment évolué ?
J'en ai le sentiment. D'abord, si on regarde les études d'opinion, effectivement, la grande majorité des Français ne voit pas le problème et ne s'oppose pas, en tout cas, à l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes. Mais surtout, je voudrais dire que c'est un texte de loi qui a été très bien préparé. Et je le dis d'autant plus que je ne fais pas partie des ministres qui ont travaillé sur le dur du texte, puisque ce sont la garde des Sceaux, la ministre de la Santé et la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Mais elles ont mené un travail important après les états généraux de la bioéthique. Et il s'avère que rien éthiquement ne s'oppose à ouvrir la PMA pour toutes les femmes. Donc j'ai le sentiment que ce texte a été vraiment bien préparé, bien travaillé. Maintenant, le débat parlementaire aura lieu et c'est normal et chacun pourra exprimer ses positions à cette occasion.
Ce projet de loi, est-ce que c'est un gage donné par Emmanuel Macron à l'aile gauche de son gouvernement ?
Non, je dirais que c'est...
Il y avait besoin de ça pour rééquilibrer ?
Je ne sais pas. Moi, je ne fais pas partie de gens qui comptent les points à gauche et à droite parce que je pense que le sens de La République En Marche, c'est justement ce dépassement des clivages. Mais je pense que ce qui est important...
Oui, mais il y a quand même deux familles politiques qui s'y sont réunis dans ce mouvement, donc il faut quand même satisfaire un peu tout le monde.
Élargie et recomposée. Je dirais surtout qu'il y a des engagements de campagne. Et pour moi, c'est ça qui est important. Moi, j'ai toujours considéré, quelle que soit l'élection, même quand j'étais à une élection municipale, que le programme, c'est un contrat moral qui nous engage avec les gens qui ont voté pour nous. Là, il y a des gens qui ont voté pour le président de la République. Ils s'étaient engagés à ouvrir la PMA pour toutes les femmes. De surcroît, la révision de la loi bioéthique, c'est une obligation. Ça a lieu tous les 7 ans et on est obligé de la réviser pour l'actualiser. Donc je crois que c'est quelque chose de très sain et normal.
Ouais. Les opposants à l'extension de la PMA, notamment l'archevêque de Paris, Mgr Petit, qui était dans ce studio il y a 2 semaines sur RTL, craignent un glissement futur vers la GPA, la gestation pour autrui. Attention à la commercialisation du corps. Voilà le discours, notamment de Mgr Petit. Quel engagement vous pouvez prendre là-dessus ?
Moi, d'abord, j'entends toutes les questions d'où qu'elles viennent et qui sont assez légitimes parce qu'en fait, ces questions de PMA comme de GPA, elles touchent à la fois aux très intimes, à la vie amoureuse, à la sexualité, à la vie familiale, à l'idée qu'on se fait des familles, mais elles touchent aussi à des questions philosophiques, scientifiques, éthiques, et donc je comprends tout à fait les questions qui peuvent se poser. Maintenant, sur la GPA, nous, on a tous toujours été extrêmement clairs, à commencer par le président de la République, sur le fait qu'on était opposés à la GPA, pour les raisons que vous venez d'évoquer, qui peuvent glisser vers une marchandisation du corps des femmes, à laquelle nous sommes très opposés. Donc il n'est pas du tout question d'ouvrir, ni même de débattre de la GPA pendant ce quinquennat.
C'est pas déjà un peu le cas avec la PMA. J'entendais un collectif de femmes célibataires qui disait « on va passer après les homosexuels ». Enfin, vous voyez, il y a une espèce de compétition, là. On est déjà un peu dans cette logique,
ouais,
non ?
Je crois pas qu'on soit dans cette logique, mais je pense que ce qui est plutôt sain, c'est de pas catégoriser, en tout cas. Et voilà, là, c'est un nouveau droit qui s'ouvre. Je pense que c'est vraiment important pour les femmes notamment qui l'attendent. Moi, j'ai eu pas mal de témoignages de femmes qui m'ont dit « j'ai 42 ans, ça fait 7 ans qu'on me promet la PMA », parce que c'est une promesse du président François Hollande qui ne l'a pas tenue pendant son quinquennat, il ne l'a pas mise en œuvre. Donc il y a eu une déception, il y a des femmes qui ont attendu pendant les 5 ans du quinquennat précédent que la PMA s'ouvre. Non pas pour avoir une victoire politique, là je ne suis pas dans la question politique, je suis vraiment dans la question intime, personnelle, de vie familiale. Et donc moi j'ai cette femme qui me dit « maintenant j'ai 42 ans et j'espère pouvoir enfin fonder une famille parce que bientôt il va être trop tard pour moi ».
Bon, vous dites donc promesse tenue par le président Emmanuel Macron et on attend quand même évidemment les débats à l'Assemblée et les amendements possibles. Autre thème, Marlène Schiappa, en 2018, il y a eu en France 121 féminicides et depuis janvier 2019, au moins 70 femmes tuées par leur compagnon ou leur ex-compagnon, ex-mari. Certains collectifs parlent même de 76 meurtres, donc on est dans une situation qui empire. Là aussi, on avait le sentiment que c'était une grande cause nationale de ce quinquennat et qu'on est en retard.
D'abord, je pense qu'il faut être clair sur les chiffres, même si je ne fais pas évidemment une bataille de chiffres, parce que même si c'était 10 féminicides, ce serait 10 de trop. Mais d'abord, il y a une tendance qui est à la baisse. Vous avez une régularité de, en moyenne, à la fin de l'année, quand vous faites les comptes, une femme tous les environ 3 jours qui est tuée par son conjoint ou son ex-conjoint. Sur 2018, vous avez moins de féminicides que sur 2017. Et pour 2019, il faut attendre la fin de l'année pour faire une moyenne, parce qu'il y a des mois dans lesquels vous avez beaucoup de meurtres, des mois dans lesquels vous en avez peu.
On a le sentiment que sur le premier semestre, oui, peut-être.
Bon, à la fin de l'année, mais en tout cas, peu importe.
On a le sentiment,
parce que même
si on duplique
10,
les chiffres du premier semestre,
c'est pas le cas, VS 2018, mais peu importe, parce que même si c'était 10 femmes, c'est trop. Et nous, justement, on veut faire en sorte que toute la société se mobilise, parce que ce sont des faits qui ont trop longtemps été tolérés.
Mais qu'est-ce qui n'a pas été fait, pardon de nous interrompre, qu'est-ce qui n'a pas été fait depuis le début du quinquennat?
Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, pas depuis le début du quinquennat, mais depuis des générations, parce que c'est pas en 2 ans qu'on peut résoudre ce problème mondial, universel, et qui existe depuis des générations, de ce phénomène des violences conjugales. Donc nous, on met toute notre énergie depuis 2 ans. On a créé une plateforme de dialogue avec des policiers et des gendarmes pour faciliter l'accès à la plainte. Il y a 2 unités. Ils sont mobilisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a renforcé les moyens du 3919, le numéro d'urgence, pour que les femmes puissent appeler. Et on leur a donné un objectif. L'objectif de prendre 100% des appels. Ça n'était pas le cas précédemment. On a augmenté considérablement les subventions aux associations qui accompagnent ces femmes. Christophe Castaner a lancé le recrutement de 73 psychologues, en gendarmerie et en police pour accompagner ces femmes vers la plainte. On a ouvert aussi davantage d'hébergements d'urgence, donc nous avons fait énormément, mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a un delta entre l'impulsion qui peut être donnée par le gouvernement et la réalité sur le terrain.
Notamment, il y a des bracelets électroniques qui sont disponibles, mais qui ne sont pas forcément placés sur les maris ou les ex-maris potentiellement violents.
Les bracelets n'existent pas encore, il va y avoir une expérimentation. En revanche, là où vous avez raison, c'est qu'il y a des téléphones grave danger qui sont financés par le gouvernement.
On peut donner à des femmes en danger, c'est ça ?
On peut attribuer sur décision de justice, mais vous avez plusieurs centaines de ces téléphones grave danger qui dorment dans un placard.
Mais comment c'est possible, ça ?
Faute d'attribution par une décision de justice. Ça veut dire qu'il y a des dispositifs qui existent dont on ne se saisit pas.
Les ordonnances de protection. Les juges qui ne font pas leur travail ?
Non, c'est trop facile de blâmer un tel ou un tel. C'est-à-dire que les dispositifs sont mal connus. Il faut renforcer la formation de tous les professionnels qui interviennent dans cette chaîne. C'est la même chose pour les ordonnances de protection, par exemple. On en délivre trop peu. Et j'étais hier avec la garde des Sceaux qui va donner un objectif. Le but de ce Grenelle des violences conjugales, un Grenelle c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Le but de ce Grenelle des violences conjugales, c'est mettre tout le monde autour de la table, regarder quels sont les dysfonctionnements et regarder comment concrètement, jusqu'à ces femmes, on peut mettre en place des mécanismes de protection avec tout le monde autour de la table. Associations, police, justice, ordre des avocats, représentants de la société civile, l'ensemble du gouvernement et le Premier ministre qui introduira ou conclura pour marquer cet engagement commun de toute la société. J'ajoute juste pour terminer que ce Grenelle, il va avoir lieu le 3-9-19. C'est important parce qu'on finance le numéro du 39-19. Mmh. Il est trop peu connu, il est trop peu utilisé. Donc c'est important pour nous de communiquer là-dessus.
Et donc
aussi.
Il souffle le 3 septembre 19.
Absolument.
39-19. On passe, Marlène Schiappa, au cas de Rugy, l'affaire de Rugy. Est-ce que vous dites affaire de Rugy ou affaire de Mediapart, vous, ce matin ? Est-ce que vous faites partie de ceux qui essayent de transformer un peu la charge de la responsabilité?
Non, moi j'ai pas du tout, je ne dis rien du tout. D'abord, je crois que chacun est dans son rôle. J'observe qu'il y a eu une décision personnelle de François de Rugy de quitter le gouvernement. Il y a eu
journalisme
une enquête
de démolition, a dit François de Rugy hier soir sur France 2, à propos de Mediapart.
Ça lui appartient. Je comprends que quand on est fléché, c'est extrêmement désagréable. Ça m'est arrivé de l'être moi-même par Mediapart, parce que j'avais payé ma taxe d'habitation de 700 et quelques euros avec quelques semaines de retard. Et donc, on aurait dit que c'était l'affaire du siècle. Ce n'est pas bien de payer sa taxe d'habitation à quelques semaines de retard, mais je crois que ça ne mérite pas non plus un acharnement et un harcèlement qui peut parfois s'en suivre, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, je comprends très bien que François de Rugy, de son point de vue, se sente harcelé et sente qu'il y a une tentative de démolition, de son point de vue. Maintenant, je pense qu'il faut aussi prendre de la hauteur et prendre le point de vue du journalisme d'enquête, qui fait aussi son travail. Et je crois qu'on ne peut pas plaider pour la transparence d'un côté et de l'autre côté fustiger cette même transparence.
Oui, surtout qu'il y a quand même 3 dîners qui sont épinglés.
Il y a une enquête, voilà, les résultats de l'enquête sont sortis. François Rugy a dit qu'il rembourserait.
Bon, il a dit qu'il rembourserait. Et puis il y a aussi cette circulaire que vous avez dû recevoir, envoyée par le Premier ministre Édouard Philippe, qui renforce les procédures de contrôle. Les travaux supérieurs à 20 000 euros dans les logements de fonction devront être soumis à l'approbation du secrétaire général du gouvernement. Donc ça veut dire qu'il faut quand même améliorer améliorer les choses. Si,
moi, je crois qu'il y a beaucoup. Il y a
si
beaucoup
cette
de
affaire de Rugy faisait pchit, il n'y aurait pas eu cette circulaire.
Moi, je peux inviter n'importe qui, Mediapart ou autre, dans mon ministère ou chez moi et voir comment sont les choses réellement. Je crois qu'il y a beaucoup de mythes. La vérité, c'est que nous, quand on fait un dîner le soir, on boit des carafes d'eau et on a des trucs de nouilles chinoises instantanées qui coûtent 1,73€ en supermarché avec une bouilloire pour être autonome et faire nos repas de travail. Et la vérité, c'est qu'on n'a pas de carte bancaire de ministère, comme j'ai pu l'entendre ici. Ouais. Moi, j'en ai pas, en tout cas. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a, mais que j'en ai pas.
Vous logez au ministère, vous ?
Moi, j'ai un appartement de fonction qui est mis à disposition.
Et voilà, donc, vous déclarez au fisc l'avantage en nature correspondant à la valeur locative du logement.
Ça, je le faisais déjà. Dès lors que j'ai été nommée, comme toute personne qui a un logement de fonction, je déclare la valeur locative et je suis imposée sur la valeur locative. S'il y a des
vous
travaux...
comprenez l'agacement des Français, quand même, suite
sûr.
À cette affaire
d'origine. Je le comprends, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas général. Moi, pour mettre mes vêtements, j'ai un portant Ikea à 9 euros que j'ai payé moi-même. Et je pense que c'est quelque chose de plutôt.
Et pas un dressing
généralisé.
À 17 000.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, les
c'est
travaux.
C'est ce qu'il y a en sous-entendu dans votre phrase.
Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas, il faut pas en faire une généralité. Il faut pas s'imaginer que toutes les personnes qui sont élues mangent du homard parce qu'on a vu une fois une photo d'un homard. Et il faut pas s'imaginer que on a un compte ouvert et qu'on peut réaliser toutes les dépenses qu'on souhaite réaliser. Je ne porte aucun jugement sur les travaux dans le ministère de François de Rugy. De surcroît, manifestement, l'enquête dit qu'ils étaient légitimes. Je connais pas cet appartement. Si c'était légitime, c'était légitime. Voilà.
Marlène Schiappa, vous avez reçu il y a quelques jours, c'était fin juin, le prix de la révélation politique de l'année. Décerné par le Trombinoscope, c'est la revue d'information professionnelle du monde politique. Est-ce que vous... Comment je peux vous poser cette question ? Vous êtes secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes depuis le début de ce quinquennat, si je ne me trompe. Vous avez envie de changer ? Vous avez envie de bouger ?
Pas particulièrement. Moi,
vous n'avez pas fait le tour de la question ?
Non, je pense qu'on n'a jamais fait le tour de la question. Il reste énormément de sujets. Là, il y a un G7 qui arrive et l'égalité femmes-hommes fait partie des priorités du G7 pour le président de la République. Avec Bruno Le Maire, on travaille sur les sujets d'émancipation économique des femmes. J'ai lancé un travail important sur les femmes de chambre, qui est un sujet qui était en dessous des politiques publiques. Sur le harcèlement de rue, on continue à mettre en œuvre ce que nous avons commencé. Il y a ce Grenelle des violences conjugales qui arrive. Donc, je pense que c'est un sujet passionnant et très concernant pour les gens dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de travail.
Donc, vous postulez pas à un autre ministère ?
Je suis jamais candidate à rien, contrairement à ce que disent les articles qui me prêtent beaucoup plus d'ambition que je n'en ai en réalité.
C'est ce qu'il faut surtout pas dire. Je suis candidate à tel ou tel poste.
Je sais pas. Moi, je suis assez spontanée. Si j'étais candidate à un poste, je le dirais. Je suis juste candidate à continuer à faire mon travail.
Merci beaucoup.
Merci
Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, bon dernier conseil des ministres avant les vacances. Vous partez loin parce qu'il faut, faire attention.
Je vais en Corse. Moi, je suis d'origine corse. Je vais à Ajaccio.
Vous avez de la chance. Profitez de la Corse.
Merci. Bonnes vacances.